Donc, verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, donc le chef de Naaman étant le chef de l'armée, il va dire à son roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voilà, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place, il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un cadeau de ma part. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, mon Seigneur, c'est-à-dire le roi, il s'appuie sur ma main et je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Merveilleuse phrase. Bienheureux la personne à qui on dit, va en paix. Alors à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, je le lis pas, c'est autre chose. Le dernier événement, ça concerne le serviteur d'Élisée, Gehazi. Si vous avez la curiosité de lire jusqu'à la fin, lui il est un peu vénal. Il court après Naaman en disant, « Oh mais mon serviteur, mon maître, il veut le cadeau, il a besoin d'argent, de vêtements, etc. » Et Naaman gentiment lui donne tout ce qu'il demande, Gehazi revient auprès d'Élisée, Élisée comprend qu'il y a un truc qui ne va pas, et du coup la lèpre de Naaman tombe sur Gehazi, pour lui et sa famille. Alors c'est un texte extrêmement riche, je vais passer un tout petit peu de temps pour commenter certains éléments. Donc nous sommes à peu près entre l'an 800 et l'an 900, enfin, entre l'an 900 et l'an 800 avant Jésus-Christ. Le royaume qui a été établi par Dieu à la demande des Hébreux a eu comme roi Saül, puis David, puis Salomon. Puis, il y a deux fils de Salomon, Salomon ayant eu 1000 femmes, il a eu un certain nombre d'enfants. Il y en a deux qui se disputent, si on peut dire, la royauté. Et du coup, le royaume est partagé en deux. Il y a une sorte de grande réunion à Sichem, et finalement, ils décident de partager le royaume en deux. Israël ou royaume du nord, et Juda ou royaume du sud. Donc, pour faire court, hein, parmi tous ces fils de Salomon, Roboam devient le premier roi de Juda, et Jéroboam le premier roi d'Israël. Pour ceux que ça intéresse, c'est tout ça est raconté dans le premier livre des rois, au chapitre 12. Et durant ces périodes troublées, le Seigneur a suscité plusieurs prophètes dans ces deux royaumes. Et la période où nous sommes, il y a eu le prophète Élie, puis son disciple, le prophète Élisée. Ces deux prophètes étaient en Israël. Alors, Élie est une figure primordiale parmi les prophètes qui vont prendre la parole durant ces temps entre Israël et Juda. Il vit sous le règne de la reine Jézabel, qui a épousé un des rois d'Israël, Akab. Et durant toutes ces années, il y a un combat spirituel et matériel et physique entre les prophètes soumis à Jézabel et les prophètes, qui sont les prophètes de Baal, et donc les prophètes du Dieu éternel. Et souvent dans ce passage, « éternel » est écrit par le tétragramme qu'on retrouve, un H-Y-H-W-H, « Je suis celui qui suis, je suis l'éternel ». Et si vous relisez ce texte qu'on vient de lire dans d'autres versions, Naaman ne dit pas « l'éternel », mais il dit « le Seigneur » Y-H-W-H. Il fait bien la différence entre « les dieux avec un petit d, et le dieu avec un d majuscule qui est le dieu éternel. Et puis en plus, comme Élie a disparu de manière miraculeuse, hein, il n'est pas mort comme les autres, il a été enlevé au ciel sur un char, Élisée, son disciple, a récupéré son manteau et il a une aura particulière. Élisée, c'est pas un prophète comme les autres. Mais ces deux royaumes, Juda et Israël, sont en perpétuel conflit, larvé ou ouvert entre les royaumes qui sont autour d'eux. Et suivant les circonstances, Juda et Israël s'allient pour lutter contre les autres royaumes, ou alors ils se disputent entre eux. Enfin bon, c'est toujours, il y a toujours la guerre, la guérilla, des ratias, des voilà. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le verset 2 que je relis. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. On peut aussi dire des pillards, on peut aussi dire une razzia. C'est pas différent de ce qui se passe en Afrique ou au Moyen-Orient, où entre des militaires, des cohortes de guerriers musulmans, ils vont aller attraper des jeunes filles chrétiennes. Si vous vous rappelez, en 2014, il y a les lycéennes, plusieurs centaines de lycéennes qui ont été enlevé à Chibok ou Nigeria. Ce que vit cette petite fille, c'est pas différent de ce qu'ont vécu ces lycéennes. Des hordes qui arrivent et qui attrapent les filles et qui les emmènent. Quant au verset 1 qui parle de la lèpre, il faut savoir, suivant les commentaires, qu'il s'agit certainement d'une maladie de peau, mais pas forcément de la lèpre telle qu'on la connaît nous. Parce que la lèpre, elle est arrivée plus tard, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand, lorsqu'il est parti guerroyer en Inde, et puis qui revient après. Dans ce passage, il y a un autre élément à prendre en compte, et c'est le temps. Lorsque le roi de Syrie dit au verset 5 « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël » et Naaman part en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange, il n'est pas à passer à la banque en ligne pour prendre des lingots d'or. Il faut s'imaginer qu'un talent, c'était 34 kilos. que Naaman part avec 342 kilos d'argent. Donc c'est dans des coffres qu'on va mettre sur des chars, qu'on va tirer par des mules. Enfin, c'est toute une armada, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il s'est passé peut-être plusieurs mois. Ensuite, il emporte 6000 sicles d'or. Alors, j'ai été sur Internet. Un sicle, c'est 11,4 grammes. 6000 sicles d'or, c'est 68,400 kilos d'or. Actuellement, un kilo d'argent vaut environ, parce qu'il y a des fluctuations tous les jours, 590 euros. Il part avec 342 kilos d'argent, sachant qu'un kilo d'argent, c'est 590 euros, à peu près en ce moment. Et il part avec 68 kilos d'or. Et actuellement, le kilo d'or vaut 34 700 euros.
Bonne assurance.
Donc, il part non seulement, il part avec tout ça, qu'il met dans des coffres, qu'il met sur des chars, qu'il met des mules, mais il faut des gardes autour, il faut des soldats autour. Parce que je vous rappelle qu'on est dans une période de guerre permanente, larvée, avec des guérillas, des radias, des... C'est pas Naaman qui part rentoir à la Marie, j'enverrai une lettre au roi, gna 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 gna, et parti avec lui 10 talents d'argent, etc. et 10 vêtements de rechange. Ça, ça en fait, hein, quand même. C'est pour ça que la notion du temps, elle est importante. Il y a aussi une chose qui est intéressante. Dans le verset 2, on parle d'une petite fille. Puis dans le verset 4, c'est une jeune fille. Il s'est peut-être passé un an, peut-être qu'elle avait 10 ans, 11 ans, puis après 12 ans, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Et puis il y a plusieurs personnages hein, dans ce texte, on a vu, il y a par ordre d'entrée en scène, il y a Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, il y a la petite puis jeune fille, il y a la femme de Naaman, il y a le roi d'Aram, il y a le roi d'Israël, il y a Élisée et Gehazi. Mais moi, parmi tous ces personnages, je voudrais ce matin vous parler d'un seul de ces personnages. C'est la petite fille. On parle beaucoup de Naaman, on parle beaucoup d'Élisée, de Gehazi, mais avez-vous beaucoup entendu parler sur la petite fille? Et je me suis posé beaucoup de questions sur cette petite fille. Elle est une petite fille du peuple d'Israël, capturée lors d'une razzia. Peut-être qu'elle était en chemin avec sa famille, peut-être qu'elle était dans les champs, toujours avec sa famille. Et elle s'est vue brusquement séparée de ceux qu'elle aimait, de ceux qui avaient en charge de prendre soin d'elle, de la protéger. Et ils n'ont pas pu le faire. Peut-être même qu'elle a assisté au meurtre des membres de sa famille. On ne sait pas. On n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été réduite en esclavage. C'est-à-dire qu'on l'a, hop, c'est devenu un objet qu'on a donné comme ça. Peut-être que le chef de l'armée, il a trouvé cette petite fille très jolie, très mignonne, qui s'est dit, tiens, je vais en faire un cadeau à ma femme. On n'en sait rien, mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle a été réduite en esclavage après un épisode de sa vie extrêmement traumatisant et qui a duré du temps. Parce qu'elle n'est pas... Il a fallu du temps peut-être pour apprendre la langue, pour apprendre tout ça. Ce qu'elle a vécu, et ça vraiment j'aimerais qu'on en soit conscient, n'est pas très éloigné de ce que vivent de nombreux chrétiens en ce moment de par le monde. L'indice de la persécution des chrétiens dans le monde vient de paraître, je vous renvoie au site de Portes Ouvertes, hein, si vous voulez avoir plus d'informations. Mais un fait révélateur que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai partagé sur mon Facebook, c'est pour se représenter ce que ça veut dire. Actuellement, un chrétien sur 12 dans le monde est soumis à des persécutions. Que ça soit des persécutions toutes bêtes, pas droit à exercer tous les métiers, pas le droit d'aller à l'église comme il veut, ou des persécutions et des menaces de mort. Un chrétien sur 12, c'est énorme. Donc, entre le verset 2 et le verset 4, elle passe du statut de petite fille au statut de jeune fille. Donc, je vous ai dit, à mon avis, elle doit avoir entre 11 et 12 ans. C'est-à-dire, elle est assez âgée pour se rappeler de sa vie d'avant. C'est pas un bébé. Et aussi de ce qu'elle a pu apprendre auprès de ses parents quand elle était en Israël, ce qu'elle a entendu sur son peuple, sur Israël, sur Dieu et sur Élisée. Elle a entendu parler des miracles d'guérison. Et en plus, bon, elle est mise au service d'une grande dame. On ne pourrait pas dire la première dame, mais son mari, le chef des armées, c'est quand même une petite fille qui a appris, qui est éduquée, qui se comporte bien, qui doit être jolie, qui doit être... voilà. Elle a appris son travail, elle a appris le mode de vie des gens chez qui elle est. Donc, on se représente, hein, le scénario. Elle est auprès de sa maîtresse, peut-être qu'elle est en train de la coiffer, de la maquiller, de faire des choses comme ça, dans un pays ennemi, esclave, loin de sa famille. Elle souffre certainement de l'injustice de sa situation. Peut-être que la femme de Naaman a des enfants de l'âge de cette petite fille, et puis elle voit comment ses enfants sont traités par rapport à elle. Elle pourrait légitimement, et moi je me mets à sa place, sombrer dans le désespoir, dans l'amertume, ou alors avoir un esprit de revanche, un esprit de vengeance. Elle pourrait se réjouir secrètement de la maladie qui tombe sur Naaman. C'est bien fait. T'as vu tout ce que tu as fait subir à ma famille, à moi, ben, tant mieux pour toi. Mais elle a gardé la foi. Dans ce contexte tellement difficile, elle a gardé la foi et elle n'est pas amère envers Dieu. Et elle croit toujours que Dieu peut faire des miracles par l'intermédiaire de ce prophète. Et elle a tellement la foi qu'elle est persuadée que Dieu peut faire des miracles à l'extérieur d'Israël, auprès de la famille chez qui elle est. Et elle dit, verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle dit pas peut-être. Elle dit pas, ah oh ben peut-être que s'il allait le voir, peut-être que si, peut-être qu'il serait... Non, il serait guéri de sa lèpre. Elle n'a pas de doute. Et elle agit dans l'intérêt de ses maîtres, parce que elle a l'opportunité de montrer que son Dieu est Dieu. Elle pratique en fait ce qu'on est en train d'apprendre dans notre groupe de maison, j'imagine aussi dans le groupe de maison du Sud-Loire, puisqu'on étudie le sermon sur la montagne. Et dans Matthieu 5, 43 à 45, on en a parlé, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Puis encore, Romains 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Or, c'est tellement tentant de répondre au mal par le mal, à la maltraitance, par la vengeance, par de la vengeance personnelle, par des mauvaises paroles. C'est tellement tentant. Mais elle, cette petite fille, c'est une messagère de Dieu. Elle a sa petite place de domestique. On peut l'imaginer dans le palais antique du chef de l'armée du roi. On peut l'imaginer comme on peut, je sais pas, pour les plus âgés d'entre nous, les péplums des années 60 avec ses gigantesques palais, avec ses innombrables pièces. Elle est là, une petite fille. Et peut-être qu'elle a longtemps réfléchi avant de parler. Mais elle a osé lancer son message audacieux. Elle a exprimé sa relation avec Dieu et sa foi dans les capacités de guérison de son Dieu. On ne connaît pas son nom. On n'en entend plus parler. Mais grâce à elle, ce grand personnage, Naaman, reconnaît que Dieu est le Seigneur éternel. Grâce à une phrase dite par une petite fille, à la bonne place, au bon moment et à la bonne personne. Est-ce qu'elle aurait été entendue si elle avait parlé à Naaman directement? Est-ce qu'elle aurait été entendue si elle avait parlé à un autre domestique? Non. Elle parle, elle dit une phrase à la bonne personne, au bon moment, et elle est à sa bonne place. Et moi, vraiment, cette petite fille, elle me fait réfléchir. Et en ce début d'année, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois être pour être utilisable par Dieu, comme cette petite fille a été utilisable? Et moi, je vous propose, on dit toujours en début d'année, les bonnes résolutions et machin, machin, je vous propose pas, moi ça fait longtemps que je ne prends plus de résolution parce que je sais que je les prends au 1er janvier et puis dès le 15, voilà, c'était terminé. Mais je vous propose de vivre cette année en étant utilisable et disponible entre les mains de Dieu pour faire avancer son royaume, comme cette petite fille. Et donc, à quelles conditions, je me suis posé la question, à quelles conditions pourrais-je l'être ? Utilisable. Alors, pour reprendre cette petite fille, d'abord, pas d'auto-censure, pas de crainte. Est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Je vous renvoie à un petit texte du CNEF qui est au fond là-bas, qui est libre de le dire au travail, libre de le dire à l'école, libre de le dire à l'église. On a la liberté de parler. Hein? Pas d'autocensure, pas de crainte. Peu de mots, mais plein de certitudes et plein de foi. Et de la disponibilité mentale. Combien notre esprit est occupé par plein de trucs qui font que quand on passe à côté de certaines personnes, on pense même pas à témoigner. On est tellement... ça tourne là-dedans. Voilà, être à l'écoute de Dieu. Être attentif, attentive aux besoins de l'autre. Être présente au monde et à ceux qui nous entourent. Et être le prochain ou être la prochaine de l'autre. Hein? Qui est mon prochain? Qui est ma prochaine? Voilà, c'est ce que j'avais juste envie de vous partager ce matin. Un message assez court, mais la petite fille de Naaman, vous vous en souviendrez. Je vous remercie.